Europe Midi, Sébastien Krebs.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accompagner pour cette Europe Midi. Soyez les bienvenus, il est midi et demi sur Europe 1.
L'armée la plus moderne du monde, celle dont le budget annuel est de 730 milliards de dollars, a perdu face à un groupe de va-nu-pieds, de gens qui viennent des campagnes.
Les talibans sont au palais présidentiel. Les États-Unis ont retiré le drapeau américain de leur ambassade. L'Afghanistan bascule. Kaboul sombre dans le chaos. C'est le grand titre de cette Europe Midi. Des scènes de panique avec des milliers d'Afghans qui tentent de fuir et les Occidentaux qui rapatrient en urgence leurs ressortissants. Emmanuel Macron doit s'exprimer à 20h après un conseil de défense. Nous allons nous arrêter largement sur les implications de ces événements. Nous en parlerons avec mon invité dans un quart d'heure, le député LR du Lot, Aurélien Pradier. Il préside le groupe d'amitié France-Afghanistan à l'Assemblée. L'actualité, c'est aussi le pass sanitaire, désormais exigé à l'entrée de 126 centres commerciaux et grands magasins. Dans les zones où le virus circule le plus, on ira voir à Paris si ces contrôles se passent bien. Dans Europe Midi, des vacances autrement. Vous verrez qu'on peut aujourd'hui louer un bout de jardin chez quelqu'un pour y installer sa tente ou son camping-car. Et puis le foot, on fera un premier bilan après deux journées de Ligue 1. Un match nul concédé hier soir par l'OM de partout contre Bordeaux. Le temps, encore de la chaleur autour de la Méditerranée, mais ailleurs des températures en nette baisse et des nuages qui arrivent. Météo complète dans 10 minutes avec Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et cette image, pour commencer, le son de ces tirs, des tirs en l'air de soldats américains débordés à l'aéroport de Kaboul face à une foule immense qui a envahi le tarmac pour tenter de fuir par tous les moyens l'Afghanistan. Voilà l'une des images les plus marquantes de ces dernières heures. La panique. Et déjà l'exode, alors que l'Afghanistan voit revenir les talibans au pouvoir. Ils ont revendiqué la victoire 20 ans après avoir été chassés par les GIs américains. Les pays occidentaux rapatrient eux, leurs ressortissants. Et Johanna Chabas, des milliers d'Afghans, eux aussi, cherchent donc le moyen de s'enfuir.
Oui, c'est le chaos total à l'aéroport international de Kaboul. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des milliers de civils qui courent dans tous les sens. Certains ont une petite valise avec eux, mais beaucoup n'ont rien. Ils essaient désespérément de monter dans un avion, escaladent les passerelles, s'accrochent aux roues des appareils et essayent de s'y tenir au moment du décollage. Tout pour fuir la capitale afghane. Ils sont tellement nombreux sur le tarmac que les vols commerciaux ont été suspendus pour éviter les pillages et laisser l'espace aérien libre pour les avions militaires. Car les évacuations des ressortissants, elles, continuent. Le personnel des ambassades, notamment des États-Unis, de l'Allemagne ou encore de la France, sont tous regroupés à l'aéroport. Le premier avion britannique a atterri ce matin. Le Royaume-Uni veut rapatrier 1500 personnes par jour. Les États-Unis, eux, ont déployé 6000 militaires pour évacuer leurs 30 000 ressortissants, ainsi que le drapeau américain décroché de l'ambassade est gardé en sécurité à l'aéroport.
Johanna, autre image de ces dernières heures, c'est celle des talibans qui ont mis en scène leur victoire dans le bureau présidentiel.
Oui, c'est une scène qui aurait été inimaginable il y a quelques mois. Les chefs talibans qui arpentent les couloirs du palais présidentiel en direct à la télévision. Ils récitent le Coran, tous assis autour du bureau du président qui a fui le pays. Et ils proclament leur victoire. Leur drapeau blanc est tissé au-dessus du bâtiment officiel. Sur la chaîne Al Jazeera, les talibans donnent même des interviews où ils veulent rassurer la population afghane. Leurs soldats ont l'ordre de ne pas entrer dans les maisons des civils. Mais la communauté internationale est inquiète. Le secrétaire général de l'ONU se dit préoccupé par l'avenir des femmes et des filles. Et dans les régions récemment annexées, les talibans sont déjà accusés de meurtres, d'exécutions et d'enlèvements de jeunes filles pour les marier de force.
Merci Johanna Chabas. Emmanuel Macron s'exprimera tout à l'heure à 20h. Il préside en ce moment même un conseil de défense. On y revient dans un instant. D'abord, le regard du grand reporter Régis Le Sommier. Il a pu tourner un reportage en Afghanistan le mois dernier et il a pu filmer les talibans en route vers Kaboul. Il le racontait ce matin sur Europe 1.
Ce sont des combattants qui n'ont pas de casque, qui n'ont pas de gilet pare-balles pour la plupart et qui sont en sandales. Donc il faut imaginer que voilà, l'armée la plus moderne du monde, celle dont le budget annuel est de 730 milliards de dollars, a perdu face à un groupe de va-nu-pieds, de gens qui viennent des campagnes. Maintenant, leur prise de pouvoir aujourd'hui, eh bien, les met dans une position de force au sein de cette nébuleuse djihadiste. C'est-à-dire que l'émirat qu'ils vont créer, l'émirat islamique qu'ils vont créer, va avoir une notoriété incroyable auprès de la mouvance radicale de l'islam. Et donc, les talibans vont prendre un lead au niveau international. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? toute la question est là. Est-ce qu'ils vont devenir un État paria, parce que c'est sûr que s'ils ne rompent pas avec Al-Qaïda, ils ne vont pas pouvoir avoir une représentation à l'ONU, ils ne vont pas pouvoir intégrer le Concert des Nations. Ou vont-ils décider justement de jouer la carte de leur islam chez eux et puis on s'occupe pas du reste du monde? Ça, tout ça est en gestation. C'est l'inconnu, c'est la grande inconnue aujourd'hui.
Le grand reporter Régis Le Sommier, auteur d'un documentaire pour Canal+, il était l'invité de Lionel Gougelot ce matin dans la matinale d'Europe 1. Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1. Cette situation qui inquiète, hein, bien sûr, en France au plus haut niveau de l'État. Emmanuel Macron préside donc un conseil de défense. Avec une urgence, rapatrier les derniers Français encore sur place.
Oui, et la première rotation pour évacuer les Français est prévue d'ici ce soir. La ministre des Armées l'a annoncé ce matin. Rotation entre Kaboul et Abu Dhabi. C'est là, aux Émirats Arabes Unis, que deux avions de l'armée de l'air sont arrivés pour assurer l'évacuation de nos ressortissants. Ils seront ensuite rapatriés au fur et à mesure en métropole. Alors on le sait, pour faciliter ces opérations, l'ambassade de France est désormais relocalisée à l'aéroport de Kaboul. Cela concerne plusieurs dizaines de Français, mais aussi du personnel afghan qui a travaillé dans les structures françaises. La ministre des Armées, Florence Parly, l'a par ailleurs rappelé, la France fait son maximum pour évacuer les personnes menacées par le régime, artistes, journalistes, défenseurs des droits de l'homme. Justement, rappeler l'attachement de la France aux valeurs que sont la liberté d'expression, la lutte contre l'obscurantisme, cela devrait notamment faire partie du message qu'Emmanuel Macron portera ce soir à 20h, car l'Élysée insiste, cette crise afghane aura nécessairement des conséquences majeures sur la stabilité de la région et un impact géopolitique au niveau international. Mais avant tout, insiste-t-on, la France tient ce rôle d'être aux côtés d'un pays en proie au désœuvrement. Voilà pourquoi le chef de l'État continue de suivre heure par heure la situation et qu'il préside donc en ce moment même ce Conseil de défense.
Hélène Terzian, Emmanuel Macron donc à 20h. Vous pourrez suivre son intervention en direct sur Europe 1 tout à l'heure dans Europe Soir. Une réunion des ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne est aussi prévu demain. On revient sur les implications de cette situation en Afghanistan dans 5 minutes avec l'invité d'Europe Midi, le député LR du Lot, Aurélien Pradier, qui préside à l'Assemblée le groupe d'amitié France-Afghanistan.
Europe Midi, Sébastien Krebs.
À midi 37, Europe Midi continue et il faut désormais montrer patte blanche pour aller faire du shopping. Le pass sanitaire étendu depuis ce matin à une centaine de centres commerciaux. On va aller voir comment ça se passe dans quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi, Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Il est midi 38, la suite de votre Europe Midi, et pensez à garder votre passe sanitaire sur vous. Pour votre prochaine séance de shopping, le fameux QR code est exigé depuis ce matin à l'entrée de 126 centres commerciaux ou grands magasins, les surfaces de plus de 20 000 mètres carrés, dans les zones où le taux d'incidence du virus dépasse 200, c'est essentiellement dans le sud et en région parisienne. Caroline Baudry, vous êtes devant le centre de Beaugrenelle à Paris. Est-ce que ces contrôles se passent bien ?
Oui, l'entrée ici est très fluide. Deux agents de sécurité scannent les QR codes présentés par les clients. Pour Catherine et Martine, venues faire quelques courses, sortir leur passe sanitaire est devenu une habitude.
C'est normal. Si on ne fait pas attention, on ne va jamais s'en sortir, quoi.
Bah oui, je ne vois pas pourquoi on le ferait dans les musées et pas dans les centres commerciaux, en fait. Ça a pris quelques secondes. Plus contraignant, c'est pour ceux qui n'avaient pas anticipé.
Et pour cela, une tente de dépistage a été dressée ce matin dans la rue. En 15 minutes, ils peuvent se faire tester pour pouvoir entrer dans les boutiques. Pour l'instant, seules quelques personnes ont été refoulées à l'entrée. Kader vient de Belgique, il a montré son certificat de vaccination un peu à contre-cœur.
Et tout le monde est sur le même pied d'égalité, quoi. Donc c'est un peu triste, je trouve. Franchement, c'est un peu triste. Je trouve que quand même, nos libertés diminuent.
Les employés du centre commercial ne sont eux pas concernés par la mesure. C'est à partir du 30 août qu'ils devront montrer un pass sanitaire pour venir travailler.
Caroline Baudry en direct depuis le centre commercial de Beaugrenelle à Paris, l'un de ces centres donc soumis à ce pass sanitaire qu'on a vu encore contesté ce week-end dans la rue. Un pass sanitaire en vigueur depuis une semaine déjà dans les bars et dans les restaurants. Alors tiens, faisons un premier bilan avec vous, Maud Descamps. Les restaurateurs que vous avez joints font un constat, la fréquentation a baissé.
Oui, c'est ce que constate par exemple Yannick Descosse, restaurateur à côté d'Angers. D'habitude, il fait 120 couverts le midi dans son restaurant. Depuis une semaine, la moyenne est plutôt autour de 45.
On a à peu près 20% des clients qu'on a dû refuser par rapport à une non-conformité de leur passe. Et puis après, on a un vide total. par rapport à ce qu'on pouvait vivre et la semaine dernière et l'année dernière. Aujourd'hui, c'est bien pire que tout ce qu'on avait envisagé.
L'effet du pass sanitaire sur la fréquentation des établissements est en fait très disparate, notamment entre le littoral et l'intérieur du pays. Dans le Pas-de-Calais, par exemple, la baisse n'est pas aussi importante, observe Pierre Nouchi de l'Union des métiers et des industries d'hôtellerie.
Dans l'ensemble, le pass sanitaire, ça se passe bien. Les gens sont bien au courant. Bien sûr qu'on a refusé des clients au tout début. Il y a eu de la perte de fréquentation qui était considérée entre 15 et 20% au départ. Et là, on va vérifier sur les jours à venir. Je pense qu'on va revenir à une fréquentation tout à fait normale.
Autre facteur qui a pesé sur la fréquentation, la mauvaise météo des premiers jours du mois d'août. Mais le retour du soleil pourrait aussi marquer le retour des clients dans les restaurants.
Eh bien, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Enquête signée Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Alors que la situation sur le front de l'épidémie continue de se dégrader, un nombre d'hospitalisations toujours en hausse, plus de 9700, dont 1800 en soins critiques. La Martinique, elle est toujours submergée. Elle va recevoir 100 tonnes d'oxygène acheminées par la Marine nationale. Quant à la Nouvelle-Calédonie, l'archipel envisage de rendre obligatoire la vaccination pour entrer sur son territoire. La rentrée coûtera plus cher aux étudiants, plus 1,32% par rapport à l'an dernier, selon le calcul de la FAGE, le premier syndicat étudiant. 2392 euros en moyenne pour les frais de la vie courante et les frais d'inscription. C'est une trentaine d'euros de plus que l'année dernière. Allez, on va s'aérer un petit peu. Saviez-vous qu'il est aujourd'hui possible de louer un jardin, un petit bout de terre, chez quelqu'un pour y planter votre tente ou garer votre camping-car? Un espace de verdure à vous pour éviter la foule des campings. Voilà une manière de voyager autrement et qui a trouvé son public. Laura Taouchanoff.
Planter sa tente chez l'habitant pour dépenser moins et surtout se retrouver au vert. Voilà ce que prévoit de refaire Julie dans le sud de l'Italie. Comme l'été dernier, la jeune femme n'ira ni au camping ni à l'hôtel.
D'avoir un espace un peu plus tranquille, qui n'est pas forcément dans la foule, de se réveiller le matin en pleine nature. Donc du coup, pas vraiment de port du masque, pas de restrictions comme ça. Ça, c'est vraiment l'avantage.
Et pour les hôtes de ces voyageurs, c'est aussi le plaisir de la rencontre au fond de son jardin. Emmanuelle a 57 ans. Devant sa maison dans l'heure, elle propose une dizaine d'emplacement.
Ça me permet de m'échapper ailleurs tout en restant chez moi. Là, j'ai des Hollandais qui viennent de partir. On a dîné un soir ensemble. On arrive chez quelqu'un dans une famille. Il y a des gens qui sont passionnés de fleurs, qui ont des jardins. Je sèche mes graines moi-même de mes propres fleurs. Donc, je donne des graines. C'est pas vendu, c'est offert. C'est cadeau. Parce qu'un jour, ils ont pris le temps de s'arrêter chez moi.
S'arrêter chez l'habitant permet aussi de pratiquer un tourisme plus responsable, de plus en plus privilégié depuis la crise sanitaire. Sur son site Home Camper, Étienne de Galbert reçoit trois fois plus de demandes qu'en 2020.
En mettant à disposition un parc ou un jardin, en proposant soit des toilettes sèches, des douches solaires, on va laisser finalement très peu d'impact sur l'environnement.
Et le site Home Camper recherche des hôtes dans des régions très demandées comme les Landes, l'Ardèche ou la Corse.
Laura Taouchanoff, le football, le stade Vélodrome a de nouveau vibré hier soir avec le retour des supporters marseillais. 50 000 dans les tribunes, mais l'OM n'a pas gagné, tenu en échec par les Girondins de Bordeaux de partout. Même score entre Lens et Saint-Étienne. Simon Rubin, un constat après ces deux premières journées de championnat. Le grand vainqueur, c'est déjà le PSG ?
Bah oui, c'est presque terrible de dire ça. Oui, Paris est le grand gagnant de ce début de championnat. Le club a signé sa deuxième victoire en deux journées ce week-end contre Strasbourg. Deux seuls clubs font aussi bien, ce sont Angers et Clermont avec 6 points. Tous les rivaux directs en fait, les clubs qui semblent en théorie les mieux armés pour gêner Paris sont très loin au classement. Lille, champion en titre, est 18e, Lyon 17e, Monaco 14e, tout cela avec un seul point. Marseille s'en sort un peu mieux, 6e, mais compte déjà 2 points de retard. Alors bien sûr, la saison est loin d'être terminée, on l'a vu l'an dernier, le PSG s'est pris à plusieurs reprises les pieds dans le tapis, mais les rivaux des Parisiens ne doivent pas compter sur ce genre de faux pas cette année. En tout cas, pour le moment, c'est bien le PSG qui grappille de l'avance et qui fait tout pour amorcer une bonne dynamique dès le début de saison.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Et puis en Espagne, c'était la reprise de la Liga et le premier match du Barça sans Lionel Messi. Eh bien, la rentrée a été réussie au Camp Nou. Lui aussi était rempli de spectateurs. Le Barça qui l'emporte 4-2 contre la Real Sociedad avec un Antoine Griezmann en pleine forme. Tout de suite, le temps avec vous, Valérie Darmon. Et un après-midi encore chaud sur l'est du Languedoc, la région PACA, la Corse.
Effectivement, et l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes qui sont maintenus en vigilance orange canicule avec 30 à 33 degrés cet après-midi jusqu'à 38 sur le Var. C'est maximal qui baisse hein, tout de même avec 33 annoncés à Nîmes par Météo France cet après-midi, 32 à Toulon, 31 à Montpellier. À Paris, au nord, 23 degrés contre 30 hier. C'était annoncé cette baisse des maximales aussi sur la partie nord avec 21 à 25 degrés en moyenne jusqu'à 20 près de la Manche. Et donc cette fraîcheur sur un petit tiers nord de la France qui est accentuée en plus par un vent assez sensible.
Et côté ciel, Valérie ?
Alors on a un temps plus sec avec des éclaircies qui s'installent progressivement de la Bretagne au Pays de la Loire et de la Normandie au bassin parisien. Sur l'extrême nord et la façade est, les nuages qui dominent toujours, donnant des ondées faibles du Grand Est à la Bourgogne et à la Franche-Comté. Des averses un petit peu plus fréquentes en toute fin de journée du Nord-Pas-de-Calais aux Ardennes. Dans le sud-ouest, le ciel qui reste très nuageux dans l'ensemble et beau temps sur la région du sud-est.
Merci beaucoup Valérie Darmon sur Europe 1.
Europe Midi, Sébastien Krebs.
Il est midi 46, Europe Midi continue avec mon invité. Dans quelques secondes, je reçois le député du Lot, Aurélien Pradier. Il préside à l'Assemblée le groupe d'amitié France-Afghanistan. On s'arrête ensemble sur la situation à Kaboul. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Europe Midi continue sur Europe 1 et pour revenir sur ce qui se joue en Afghanistan, je reçois à présent le député Les Républicains du Lot, Aurélien Pradier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous présidez le groupe d'amitié France-Afghanistan à l'Assemblée nationale. Tout le monde a été pris de court. Il n'aura fallu que 3 mois aux talibans. On entendait Régis Le Sommier les traiter de va-nu-pieds, des jeunes soldats en sandales et sans gilet pare-balles qui réussissent à faire tomber un pays dont l'armée a été formée à coups de milliards de dollars par les États-Unis. C'est une humiliation pour l'ensemble des pays occidentaux.
Vous savez, nous n'en sommes plus à compter la fierté des uns et des autres. C'est un échec cuisant pour les forces occidentales. C'est aussi un échec pour les autorités afghanes qui, manifestement, n'ont pas su reconstruire le pays associé aux forces occidentales. Mais vous parliez de surprise à l'instant. Pardon de vous dire que ce n'est pas une surprise. Et que déjà depuis de longs mois, les acteurs de la liberté en Afghanistan nous alertent sur le fait que progressivement les talibans reprennent du terrain. Voilà des semaines que les uns les autres nous disons que Kaboul va tomber. Les observateurs disaient qu'il faudrait plusieurs mois et ça s'est fait en quelques jours. La réalité c'est qu'aujourd'hui les talibans sont beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient il y a quelques années lorsqu'ils ont, ils ont accédé au pouvoir en Afghanistan. Mais ce n'est pas une surprise. Ce qui est surprenant, c'est que les forces occidentales se réveillent depuis 2 jours parce que Kaboul est tombé. Ça fait déjà des semaines que nous savions que Kaboul allait tomber et l'Afghanistan tout entier avec.
Alors, si ce n'est pas une surprise, cela veut dire que les puissances occidentales ne pouvaient pas l'ignorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a abandonné le peuple afghan?
Ça veut dire qu'il y a une forme de lâcheté collective et puis d'impuissance. Vous savez, ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui dit beaucoup de ce que la puissance occidentale est devenue depuis quelques décennies. Elle est devenue une grande faiblesse. Nous n'avons pas su, nous ne savons plus aujourd'hui accompagner vers la liberté des pays. Nous avons injecté des milliards d'euros les uns les autres dans ce pays. Nous avons perdu des vies. Plusieurs de nos soldats y sont morts. Et au final, nous n'avons pas réussi à faire émerger une autonomie de liberté en Afghanistan. C'est un échec collectif, c'est aussi la démonstration que l'Occident est devenu un astre quasiment mort. Et je le dis avec beaucoup de gravité, parce que ce sont des valeurs auxquelles je crois profondément, mais ce qui se passe en Afghanistan, c'est le miroir de ce que nous ne sommes plus, nous les Occidentaux.
Est-ce que cela prouve que c'est contre-productif en quelque sorte d'aller intervenir et s'ingérer dans les affaires d'autres pays, dans cette région particulièrement?
C'est une vieille histoire. C'est la vieille histoire de l'humanité et des guerres au-delà de nos frontières. Ça n'a pas commencé avec l'Afghanistan. On s'est toujours demandé si la démocratie était quelque chose qu'on pouvait imposer par les armes ou pas. Il n'y a pas de réponse à cela. Il faut parfois des interventions fortes pour qu'une démocratie se réveille et se construise. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Ce qui est sûr, c'est que ça ne fonctionne jamais dans l'histoire de l'humanité quand les autorités sur place ne sont pas totalement convaincues de la nécessité de construire un pays libre. Et je le dis avec beaucoup de sérénité et de responsabilité aussi, je ne suis pas sûr que les autorités afghanes, depuis plusieurs mois, aient été parfaitement à la hauteur de la situation. Mais de la même manière, les autorités américaines ne l'ont pas été, et les grandes nations du monde, la France également, ne l'a pas été non plus. Il faut le dire, que le président de la République française s'exprime ce soir, pardon de vous dire que c'est déjà trop tard, et je le dis sans aucun esprit de polémique, mais c'est déjà trop tard parce que les talibans sont au pouvoir, et que dans quelques heures, ils détiendront toutes les clés de l'État afghan, c'est-à-dire les ressources financières de l'État afghan, sa police, son armée, sa justice, les clés de ses prisons. Bref, on est en train d'avoir devant nous un drame qui se prépare pour les années qui viennent.
Un drame qui se prépare, dites-vous Aurélien Pradier, quel est le projet des talibans ?
Le projet n'a pas changé, et ça je veux le dire avec force. Je lis ici ou là des commentaires où on dirait presque que les talibans ont changé. Les talibans n'ont pas changé, sont les mêmes terroristes qu'il y a quelques années. Et vous l'avez vu sur l'avancée qu'ils ont eue vers Kaboul, ils ont fait preuve d'une forme de précaution, y compris en ayant une expression publique beaucoup plus modérée qu'ils l'avaient il y a quelques années. Lorsque le porte-parole des talibans, il y a quelques jours, disait qu'ils ralentissaient l'arrivée sur Kaboul pour ne pas faire plus de victimes, c'est un faux-semblant. La réalité, c'est qu'ils paraissent peut-être quelques millimètres plus civilisés aujourd'hui, mais ils ne le sont pas plus qu'ils l'étaient il y a quelques années. Leur projet est toujours le même.
Ça veut dire que quand ils promettent qu'il n'y a pas de risque, ni pour les diplomates, ni pour les humanitaires, vous, vous n'y croyez pas.
Mais que vaut la promesse de terroristes ? Les talibans sont des terroristes. Est-ce que nous avons oublié qu'ils ont accompagné le terrorisme mondial depuis des années ? Est-ce qu'on a oublié ce que déjà depuis quelques jours ils font partout où ils sont passés ? La torture, la mise en place d'exécutions expéditives, la fin des écoles et des expressions de liberté. Vous voyez bien ce qui se prépare déjà partout où ils sont passés. Donc je refuse que nous accordions aux talibans qui sont des terroristes autre chose que le statut de terroriste. Ce sont des terroristes, point à la ligne.
Cela veut dire, Aurélien Pradier, que nous devons être inquiets pour notre propre sécurité en Europe ?
Nous devons être inquiets pour l'idée que nous faisons de notre nation, le devoir moral qui est celui d'une grande nation comme la France, partout dans le monde, c'est quelque chose qui compte encore. Je sais qu'on est obsédé par nos sujets nationaux et on a de quoi l'être, mais il ne faut pas oublier que la France a aussi un grand devoir d'expression et de défense des libertés. Et puis au-delà, vous avez raison de dire qu'au-delà de cette exigence morale, il y a une nécessité de sécurité. Lorsque les Américains ont attaqué l'Afghanistan, c'est parce qu'ils venaient d'être frappés très durement par des attaques terroristes qui avaient été préparées en Afghanistan. Mesurez bien que lorsque les talibans maîtriseront toutes les clés d'un État, y compris les moyens financiers, alors ils pourront encore mieux organiser, directement ou indirectement, la formation des actions terroristes. Donc oui, nous en France, comme partout dans le monde, nous avons de quoi être inquiets. Mais pardon de redire qu'il est déjà très tard. J'espère qu'il n'est pas trop tard.
Ça veut dire que vous estimez que l'Afghanistan peut redevenir, comme c'était le cas avant les attentats du 11 septembre, une base arrière du terrorisme international ?
Évidemment, mais c'est une évidence absolue et je n'imagine pas qu'on ait le moindre doute ou la moindre naïveté sur cela. D'abord, je redis que moi, député français, je ne me résous pas à l'idée qu'en Afghanistan, nous les Français, nous abandonnions un certain idéal de liberté. Je me fais une autre idée de mon pays et de notre nation. Et je dis ensuite que lorsque les talibans auront dans quelques heures des moyens bien plus importants que ceux qu'ils n'ont eu depuis plusieurs mois et quelques années, alors oui, à l'évidence, il faudra s'inquiéter pour la sécurité du monde et des pays occidentaux en particulier.
Sans compter le risque d'une vague migratoire qui pourrait à nouveau se diriger vers l'Europe. On voit déjà des milliers d'Afghans qui tentent de fuir le pays. Il y a un risque de déstabilisation aux frontières européennes ?
Aux frontières européennes et bien au-delà. Il faut distinguer deux choses. La vague d'immigration, je fais partie de ceux qui considèrent que notre devoir aujourd'hui, il est d'accueillir toutes celles et ceux qui ont contribué à faire vivre la liberté en Afghanistan et qui sont en danger face aux talibans. Ce n'est pas le moment pour la France de jouer les petits comptables. C'est le moment pour la France d'accueillir toutes celles et ceux qui ont été des défenseurs de la liberté. C'est ce que notre nation a toujours fait depuis des décennies et c'est ce qu'elle doit faire aujourd'hui. Mais au-delà, il y a parmi la vague que vous évoquiez des femmes et des hommes bienveillants et d'autres qui ne le seront pas. On a du mal à avoir des informations depuis quelques heures et ce sera un des grands défis des jours et des mois à venir, c'est qu'on n'accédera plus à l'information.
Mais que faire alors ? Est-ce qu'il faut accorder l'asile à tous les Afghans qui le demandent pour fuir la guerre ?
À tous les Afghans qui sont en danger de mort parce qu'ils ont défendu la liberté en Afghanistan, parce qu'ils ont travaillé avec les autorités françaises, avec les ONG, ma réponse elle est claire, nette et précise, oui nous devons les accueillir. Il y a une différence entre l'immigration et le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est ce qui a toujours fait la fierté d'une nation comme la nôtre. Et donc je le dis, celles et ceux qui sont en danger parce qu'ils ont défendu la liberté en Afghanistan doivent être accueillis dans notre pays. Mais je dis aussi qu'il est possible que les talibans libèrent des prisons afghanes aujourd'hui celles et ceux qui ont été des terroristes et qui, eux, peuvent faire partie d'une vague migratoire avec beaucoup moins de bienveillance que les défenseurs de la liberté. Et c'est là que nous avons un vrai défi migratoire à relever.
Mmh. Aurélien Pradier, Emmanuel Macron va s'exprimer tout à l'heure à 20h après un conseil de défense qui est en cours. Vous le disiez, c'est trop tard. Mais que peut-il dire ce soir? Qu'attendez-vous de lui?
Je ne sais pas ce qu'il dira. J'ai espéré depuis des semaines qu'il dise quelque chose. Et j'avoue que je trouve cette intervention extrêmement tardive. Mais peu importe. Ce qu'il faut d'abord qu'il dise, c'est que nous ne reconnaissons pas chez les talibans une autorité politique. C'est la première chose qu'il faut le dire. Les talibans sont des terroristes et resteront des terroristes. On ne deal pas, on ne négocie pas avec les terroristes. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que nous accueillerons, et j'attends que le président de la République française le fasse, toutes celles et ceux qui ont été des défenseurs de la liberté, qui ont travaillé avec les autorités françaises et qui sont en danger de mort aujourd'hui en Afghanistan. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que la France prenne une initiative, pas militaire en Afghanistan, c'est déjà trop tard, on peut plus réintervenir militairement à ce stade en Afghanistan, mais aux frontières de l'Afghanistan. Et c'est à la France de prendre le lead sur un sujet aussi important que celui-ci, de ne pas attendre que les autres bougent. C'est à la nation française de bouger parce qu'il en va de nos valeurs et de notre sécurité.
Mmh. Prendre le lead, mais pour faire quoi aux frontières de l'Afghanistan?
Pour sécuriser les frontières avec l'Afghanistan. Alors, vous savez qu'elles sont difficiles à maîtriser parce que nous ne les contrôlons évidemment pas toutes. Mais il faut que nous soyons assurés que l'Afghanistan ne devienne pas une nouvelle passoire pour les terroristes. Il faut qu'on ait un contrôle extrêmement minutieux de celles et ceux qui, avec des intentions hostiles, pourraient quitter l'Afghanistan pour frapper dans notre pays. Et puis, il va falloir renforcer la protection contre la menace terroriste, ce qui va être de plus en plus difficile, parce que jusqu'ici, nous avions une présence française sur le sol afghan, et donc nous accédions à des informations. Aujourd'hui, demain, nous n'aurons plus accès à ces informations. Et donc, la menace terroriste, la lutte antiterroriste, va être pour les services français encore plus difficile.
Merci Aurélien Pradier d'avoir été l'invité d'Europe Midi en direct, député Les Républicains du Lot. Je rappelle que vous présidez le groupe d'amitié France-Afghanistan à l'Assemblée nationale. L'intervention d'Emmanuel Macron, 20h à suivre en direct sur Europe 1. Et nous y reviendrons très largement dans Europe Soir dès 18h avec de nombreux invités. Dans un instant, un nouveau point sur l'info, le journal de 13h à suivre. À tout de suite.